mon père affirmait qu'un homme ne peut pas vivre sans deux choses essentielles. Un bon matelas et une bonne paire de chaussures. Il vendait les deux. Pas ensemble, naturellement. La fabrique de matelas, il en avait hérité de sa mère, une Anglaise bien sous tout rapport, ou presque, puisqu'elle était tombée enceinte lors de vacances en France peu avant la guerre et s'y était établie. Les chaussures, elles, étaient venues plus tard. En apprenant que son chausseur préféré était sur le point de faire faillite, mon père, un homme élégant, avait racheté l'entreprise. Mon père excellait en tout. La musique, le jardinage, le sport. Il aurait pu être médecin, architecte, il aurait pu être prêtre ou rabbin, mais il ne croyait pas en Dieu et il n'était pas juif. Pas complètement, en tout cas. Sa mère n'était pas juive, donc lui non plus. Moi, encore moins. À l'entendre, c'était tant mieux. Ses fournisseurs, de bons catholiques, lui reprochaient déjà d'être trop dur sur les prix. Ils ne voulaient pas être accusés en sus d'avoir amoché leur sauveur, surtout dans un contexte de concurrence accrue des Américains. Quand ma mère suggéra qu'il serait peut-être souhaitable de m'initier à cette partie de mon histoire, mon quart de judéité, il se mit en colère. On n'en parla plus jamais. Mes parents m'élevaient comme un projet, avec une fougue de dictateur. Ils m'aimaient comme on aime un plan quinquennal. Mais ils m'aimaient. J'étais leur plan quinquennal. Seule mon insupportable sœur échappait à leur tyrannie, parce qu'elle avait 4 ans. Du haut de ces 1000 et quelques jours, Inès se croyait tout permis. Elle fouillait ma chambre, touchait à mes disques. Si j'élevais la voix, elle se mettait à pleurer et ça me retombait sur le dos. Insupportable. Quelques jours avant ma maladie, sans savoir que nous incubions tous, mon père me fit monter dans son bureau. « J'ai eu Rothenberg au téléphone. » Il dit que ton dernier cours s'est mal terminé, que tu deviens paresseux, que si ça continue, tu ne passeras pas dans la classe supérieure au conservatoire. Il pense que tu gâches ton talent. Tu as une explication ?
J'en avais une. J'avais fumé des lianes avec mon meilleur ami Henri, dans les bois, derrière le manoir de ses parents, plutôt que de faire mes gammes.
Non, je comprends pas. Je travaille dur pourtant.
Pas assez dur. Apparemment. Ta mère, ta sœur et moi partirons à Rome sans toi ce week-end. Tu en profiteras pour réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie.
Je suppliais mon père. Je suppliais ma mère qui fit la sourde oreille. Elle me colla aussi des devoirs d'histoire dont elle était agrégée. J'en parle avec tendresse aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé ensuite. Des années de pluie noire qui m'ont glacé jusqu'à l'os. Mais ce jour-là, pas question de tendresse. J'ai haï mes parents. Nous habitions en région parisienne. J'allais sur mes 16 ans et je ne manquais de rien. Ma vie sentait le cuir et les orchidées, les parfums de chez Dior, ma vie bien encadrée par le mur de briques de notre propriété. La nuit venue, j'imaginais m'enfuir, changer le monde. Hurler des ordres en espagnol à mes fidèles guerrieros, béret sur la tête et cigare au bec. Mais il faudrait d'abord apprendre l'espagnol. Alors un jour, plus tard. En attendant, mes rêves de révolution mouraient à chaque petit déjeuner qu'on me servait au lit. Une façon comme une autre de dire que j'étais un garçon normal. Un gamin de mon âge, bien élevé. Un affable crétin. Tout de même, ma maladie... Je ne crois pas l'avoir mérité.
Le rythme, gueulait Rothenberg. Le rythme.
Le vieux Rothenberg m'enseignait le piano. Il était froissé comme du papier. Visage, cou, main, un braille de rides a donné le vertige. J'avais envie de le repasser chaque fois que je le voyais. Mais quand il jouait, des rois mages se mettaient en chemin. Des princesses exotiques et lointaines étaient prises de langueur dans leur palais de sable. Même Madame Rothenberg, une ombre fanée qui sentait les pétales et la naphtaline, redevenait la reine du midi qui l'avait séduite 60 ans plus tôt, sous un noyer en fleurs. Rothenberg n'enseignait que Beethoven. Dans un passé lointain dont il parlait rarement, le grand homme, qu'il l'appelait par son prénom, lui avait sauvé la vie. Rothenberg avait joué sans instrument ses 32 sonates, jour après jour, les doigts dans l'air, les pieds dans la poussière de Pologne. Il avait joué pour ne pas devenir fou. Je lui avais demandé si nous pouvions étudier autre chose, il s'était emporté.
« Tu étudies déjà autre chose, imbécile. Chez Ludwig, il y a tout. L'avant et l'après. Il y a Bach et il y a Schubert. Il y a Gabrieli, Mozart, Bruckner, et pour un peu, il y aurait presque Varèse. Qu'est-ce que tu veux de plus ?»
Cette semaine-là, la semaine où je tombais malade, la semaine où il appela mon père, je l'avais désespéré. J'insultais le rythme et Rothenberg agonisait en s'arrachant les cheveux. En tout cas, le peu qui lui en restait, parmi la couronne teinte en roux qui entourait la peau tachetée de son crâne. Sa tête évoquait un léopard en flammes.
Dans l'andante de la numéro 15, le rythme est essentiel. Tu vois comment elle s'appelle ?
Je me penchais pour lire la partition. Pastorale ?
Ça parle de quoi ?
De bois ? De ruisseaux ?
Schmegg ! Des bois, des ruisseaux, n'importe quoi. Tu entends cette pulsation à la main gauche? C'est un type qui les enjambe, tes bois. Il monte sur les épaules de Bach pour voir par-dessus les arbres. Et toi, tu joues ça comme un schmock endormi dans l'herbe après avoir trop mangé. Comme un ivrogne qui cherche une femme dans le bois de Boulogne. Pousse-toi, bon sang, je vais te montrer.
Calme-toi, Alon, lança Madame Rothenberg depuis la cuisine.
Pense à ce qu'a dit le docteur.
Il fondit sur le piano sans même s'asseoir. Et je vis des choses que je ne compris que plus tard. Je vis des géants danser. Je vis un aigle piqué, tisser un ourlet bleu à la surface d'un lac. Quand il eut fini, je me mis à crier parce que j'avais eu peur. Peur d'être écrasé, peur d'être emporté.
À quoi ça sert? Je ne jouerai jamais comme ça, je ne jouerai jamais comme vous.
Rothenberg referma le couvercle du piano, y déroula un napperon en macramé, se tourna lentement vers moi. Je crus qu'il allait me gifler, mais il posa doucement sa main de papier sur ma joue.
« Non, tu ne joueras jamais comme moi, mon garçon. Mais si ça continue, il y a plus grave. Tu ne joueras jamais comme toi. » Je sortis. Ivre de ses premières colères de l'adolescence, les poings remplis d'éclairs qu'on lance au petit bonheur, sans savoir que je ne reverrai jamais Alon Rothenberg. Si j'étais resté chez moi, rien ne serait arrivé. À peine mes parents partis pour leur foutu week-end à Rome, à peine leur taxi disparu au bout de l'avenue, je filais chez Henri. Henri Fournier était mon meilleur ami. On avait juré. Les Fourniers étaient riches, encore plus que nous. Lui aussi avait une insupportable sœur, juste plus âgée, ce qui présentait certains avantages lorsqu'elle prenait une douche en oubliant de fermer la porte. Le père avait fait fortune dans les vis, à bois, à tôle, auto-foreuse, tire-fond, des vis en tout genre qu'il importait d'Asie. Nous écoutions souvent de la musique avec Henri, celle que nos parents qualifiaient de « dégénérée ». Ce jour-là, un 33 tours tout neuf qu'il avait rapporté la veille de Paris. Les Rolling Stones. Le disquaire avait garanti à Henri leur dégénérescence absolue et il avait raison. Nous rebondissions sur son lit en secouant nos crinières imaginaires. Changement de face, le diamant descendit. Crachement, tambours tribaux, éructation sauvage, rire de femme, piano.
Please allow me to introduce myself. J'arrêtais de sauter.
I am a man of wealth and taste.
Rothenberg avait raison. Le rythme. Ces types l'avaient trouvé. Un rythme à nous emmener au bout du monde, à nous noyer dans la mer toute une génération si l'envie les en prenait.
Des éclats de voix dans l'entrée.
Saute ! Hurla Henri. Saute plus haut ! J'étais figé. Wouh, wouh ! Ces sauvages appelaient maintenant leur dieu. Wouh, wouh ! Et il y avait toujours des éclats de voix dans l'entrée. Henri, quelqu'un crie dans l'entrée.